Le service des meilleures bandes dessinées du monde entier et des environs présente...
Franquin par Franquin. Proposé par Fred Janin et Nicolas Van Doren.
C'est mal foutu, mais ça donne bien.
La voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'André Franquin.
Oui, oui, oui.
Franquin, dessinateur bruxellois hors pair, et un des plus extraordinaires auteurs de bande dessinée de sa génération.
Bon, fait.
Reconnu, admiré, souvent copié, jamais égalé. Franquin, après avoir repris au pied levé la série Spirou, chez Dupuis, que JG avait lui-même reprise à Robvel, s'est montré plus créatif et talentueux que ses prédécesseurs. Franquin s'est révélé particulièrement surdoué. Il est le créateur du Marsupilami, Champignac, Zorglub, Zantafio, Sécotine, Modeste et Pompon, Le Petit Noël, Les Idées Noires, Les Tifous et bien d'autres.
Oui, 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 oui.
Mais surtout, Gaston Lagaffe,
bon, fait.
De loin son personnage préféré. Tous ceux qui ont connu Franquin diront que son talent et son génie n'avaient d'égal que sa modestie. Il n'aimait pas se mettre en avant.
Oh, quelle horreur ici. C'est abominable.
Ou parler de lui.
Je plaide coupable.
Au milieu des années 80, Numa Sadoul, un jeune homme passionné de BD, arrive astucieusement à convaincre Franquin de lui donner une longue, longue, très très longue interview sur sa vie et son œuvre.
Est-ce qu'on peut s'amuser avec des conneries ?
Les entretiens vont durer plusieurs jours et Numa Sadoul en tirera un livre intitulé « Et Franquin créa la gaffe ».
Bon, fait.
Les enregistrements sur cassette audio de ces conversations n'ont jamais été offerts au grand public. Vous allez pouvoir les entendre pour la première fois.
Je suis extrêmement content,
Numa Sadoul,
qu'on puisse enfin exhumer ce qui était sur ces cassettes et qu'on le livre, en partie, du moins, aux fanatiques, aux amis, aux amoureux, aux admirateurs, aux auditeurs aussi.
Aujourd'hui, nous vous proposons de commencer tout naturellement avec le plus beau, le plus grand, le plus aimé des gaffeurs de la planète,
bon, fait.
Gaston Lagaffe.
57, février 57, la création de Gaston Lagaffe.
Au début, c'était vraiment des gags à usage interne.
Ah oui, c'était
dans le
des
cadre
gags
de la rédaction.
C'était des gags pour le journal et il en est toujours resté quelque chose.
Oups! Oula, il semblerait que les entretiens avec Numa Sadoul, qui font plus de 30 heures, ne sont pas tous utilisables. D'où l'idée de vous offrir aussi quelques autres sources sonores. Écoutons ici Franquin qui raconte Gaston à Michel Cédric pour la RTBF en 1982.
Gaston était une sorte de gag qu'on a amené dans Spirou pour faire des farces. Nous avions, avec Delporte, qui était rédacteur en chef à l'époque, il était très agréable de lui amener des idées loufoques pour le journal, parce que nous avions senti qu'il faut, dans un journal de BD, remplacer, comme Spirou du moins à l'époque, il fallait remplacer l'absence d'actualité par une espèce de fausse actualité, une actualité farce. Et alors nous avons inventé aussi pas mal de trucs qui se passaient et qui étaient une actualité caricature. Par exemple, il y a eu une vache dans les bureaux de la rédaction. Gaston a été renvoyé par M. Dupuis et on a provoqué du courrier. Il y a eu, je crois, 4 ou 7 000 lettres, j'ai oublié le chiffre exact. Hein, et certaines étaient assez marrantes d'ailleurs, pour faire revenir Gaston. Mais Gaston a été lancé comme une de ces farces. On arrivait chez Delporte, on lui disait, tiens, si on faisait ça dans le journal et on lui parlait d'une loufoquerie quelconque, alors il pointait la barre, puis il roulait des yeux, il disait, oh oui, avec un enthousiasme qui était absolument encourageant. C'est pour ça que ce journal pouvait se permettre pas mal de trucs absolument dingues. Et encore, on n'a pas fait tous ceux qu'on avait en réserve dans l'esprit. Mais Gaston est une de ces farces, et alors je suis un jour arrivé chez Yvan en disant « Écoute, si on faisait dans Spirou un héros sans emploi, c'est-à-dire un héros de bande dessinée, mais qui est trop moche pour faire un héros de bande dessinée, c'est-à-dire il est dessiné comme un héros de bande dessinée, mais il n'est pas dans une bande dessinée parce qu'il n'a aucune qualité. Il est vraiment trop bête. Et peut-être qu'on lui a découvert des qualités depuis là, je ne sais pas. » Alors Delporte m'a dit « Oh oui !»
Yvan Delporte était un extravagant puits de science. Curieux de tout, supérieurement intelligent et ouvert d'esprit.
Oh oui.
Rédacteur en chef de Spirou de 1956 à 1968, c'est lui qui fut le lien entre les dessinateurs de l'école de Marcinelle, appelée aussi la Franco-Belge. Franquin, Robat, Payot, Maurice, JDM, Machereau, Thieux et bien d'autres à qui il a ouvert les pages du journal. En décembre 1956, Franquin se rend à la rédaction Spirou, située Galerie du Centre à Bruxelles, et va expliquer son projet un peu fou à Yvan Delporte.
Si Franquin arrive chez n'importe qui avec une idée comme celle-là, il faut être con pour ne pas l'accepter, évidemment. Mais non seulement j'acceptais, mais même j'ai été enthousiaste pour cette idée de fouteur de merde, ça va de soi. Le premier à ne pas croire dans les personnages, c'est André Franquin. C'est évident qu'il faisait ça, c'était une pochade, c'était un truc comme ça, on n'allait pas faire une longue carrière, quoi. C'est un soufflet et ça va retomber très vite. Et je me souviens que les gens sérieux disaient de Gaston, comme ils l'ont dit de Lucky Luke, comme ils l'ont dit d'Astérix, comme ils l'ont dit de la tribu terrible, ça ne marchera jamais. Ça plairait à un petit coup. Il y a des gens qui aimeront bien. Mon fils aime beaucoup. Mais ça ne marchera jamais parce que ce n'est pas commercial. Ce que le public veut, c'est un héros, pas une espèce d'anti-héros avec ses savates et son mégot.
Et alors, il est pour quelque chose d'ailleurs dans le caractère du personnage. Et on s'est demandé, on a commencé à présenter le Gaston qui se trouvait dans la rédaction et les gens... Au bout de deux semaines, des gens inquiets de voir toujours ce gars qui ne faisait strictement rien venaient lui demander ce qu'il faisait là. Hein, et il répondait à un texte que Delporte a rédigé. Et puis petit à petit, pour lui donner une activité, il se mettait à jouer dans les marges de la revue. Et alors il amenait un truc de petit chimiste et puis il faisait des explosions qui rendaient une page illisible, etc. Et il a fait des farces ainsi et des gaffes et il a saboté en somme le journal. Pendant quelques semaines, quelques bonnes semaines, ça a duré assez longtemps. Puis on s'est trouvé à court d'idées parce que c'est difficile à renouveler. Hein, et on a senti une certaine réponse de la part du lecteur qui s'habituait au personnage. Alors, avec JDM qui faisait Spirou avec moi à l'époque, nous avons fait une petite bande dessinée en bas de page. Et Gaston est devenu, bien qu'il fût le personnage, le héros sans emploi au début, il est devenu un héros de bande dessinée tout doucement, petit à petit, tout naturellement, sans que jamais j'aie l'idée de le lancer dans une grande série d'albums. C'était une farce, en somme.
Retour en 1985, Numa Sadoul et Franquin.
Et une question que je me pose souvent à propos de Gaston, c'est sont ses chaussures. Il a des espadrilles. Tu sais que les espadrilles, c'est Il ne se porte pas n'importe où, n'importe quand, par tous les climats, par tous les temps.
Je sais bien, c'est une histoire d'été, c'est une histoire d'été.
Il a toujours des espadrilles.
Il a toujours des espadrilles, et c'est des espadrilles que des petits lecteurs lui ont envoyées réellement.
Oui.
Il y avait dans le temps des choses, des espadrilles noires. Il a été créé avec des espadrilles oranges, je crois. Des espadrilles oranges, pas noires, qu'est-ce que je raconte. Et un jour, j'ai reçu une lettre qui venait d'une petite ville pyrénéenne, dont j'ai oublié le nom. J'ai égaré la lettre, je ne l'ai plus. Et cette lettre me disait, il nous semble que les espadrilles de Gaston sont usagées, sont en mauvais état. Alors nous, ici, dans la capitale de l'espadrille, nous ressentons ça et nous vous envoyons, 6 juin, deux paires d'espadrilles pour Gaston. Et il y avait une paire d'espadrilles bleu ciel et une paire d'espadrilles noires. Alors j'ai choisi la bleu ciel, j'ai dit ça dans Spirou, hein, j'ai fait part de la nouvelle dans Spirou et j'ai changé la couleur des espadrilles de Gaston.
Il a toujours des espadrilles bleues maintenant.
Il a toujours des espadrilles bleues.
Qu'il serait temps de renouveler peut-être.
Mais
oui, ça prend des trous très vite, ça prend l'eau, on ne peut pas marcher à la
place. Oui, on ne peut pas marcher sur des... J'ai marché en espadrilles sur des ronces, moi.
C'est une histoire d'été, il porte un pull à col roulé quotidiennement.
Oui, bah, tout ça n'est pas logique.
En effet, tout ça n'est pas logique. Gaston Lagaffe a une silhouette en forme de spaghetti cuit. Franquin explique d'où ça vient à Hugues Daillé.
Il y a une influence que j'ai mis des années à retrouver. J'ai été un petit peu avec Maurice et Gilin, j'étais un peu au Mexique. Et au Mexique, je lisais évidemment ces petits bouquins, des petits journaux mexicains de temps en temps. Et... des années après, j'ai créé mon Gaston en revenant en Europe. C'était en 47-48, ce voyage. Et j'avais vu des petites bandes dessinées sud-américaine. Je ne savais pas que c'était sud-américain. Je croyais que c'était mexicain, mais les Mexicains n'en dessinent pas. Et c'était un replacement là-dedans. Et j'avais regardé 3-4 fois. J'avais vu que 3-4 demi-planches, comme ça. Et c'était un petit personnage qui était déjà un contre-héros, manifestement. C'était un chômeur, un gars qui ne travaillerait pas du tout et qui... Bon, etc. C'était un contre-héros. Et il y a une chose que j'avais aimée dans ce personnage, c'est qu'il était... Il était tellement peu énergique qu'il était, il était en S, comme ça. Et alors, des années après, je crée mon Gaston. Le premier était tout droit, etc. Et c'est sans doute ce souvenir-là qui m'est revenu. Et ça a influencé l'attitude de Gaston par après. Hein, c'est une influence. Il y a des choses, des mémoires qui restent en tête comme ça et qui vous influencent.
Retour en 85, lorsque Franquin raconte à Numa Sadoul l'arrivée de JDM.
Et je ne l'ai pas fait exprès. Dans le cas de JDM, il est venu se présenter. Quelqu'un l'a envoyé chez moi, je ne sais plus qui d'ailleurs. Il est venu se présenter. Alors, bon, puisqu'il était là et qu'il avait, il me semblait sympa et pour de raisons, il était adroit, etc. Il est venu travailler avec moi, tout simplement. Je me suis arrangé à faire une chose que je ne croyais jamais faire de ma vie, travailler avec un autre, parce que j'étais très personnel, très individualiste. Il a fallu cette histoire de Gaston qui a commencé alors que JDM était chez moi. Cette histoire de Gaston à laquelle je n'attachais pas une grande importance, parce que je m'étais dit au fait qu'il va commencer Gaston avec moi, il fera les décors, il a même silhouetté Gaston pendant pas mal de temps. Moi je faisais le crayonné du personnage et vaguement du décor. Et je m'étais dit, bon, quand ce truc sera un peu mûr, et quand lui sera mûr tout à fait, ce sera un personnage pour lui, et il le fera tout seul dans le Spirou.
L'approche que Franquin a eu avec moi était assez, assez bizarre, parce que moi, je venais d'un petit journal qui était Heroic Album.
Jean de Mesmaker, alias JDM.
Puis Charles Dupuis m'a téléphoné, il m'a dit, allez voir Franquin, il va vous expliquer. C'est tout ce qu'il m'a dit. Hein. Puis moi, je suis arrivé chez Franquin, qui m'a, de but en blanc, dit, bon, moi, je m'en sors plus. Il y a Gaston, je voudrais bien lancer... Mais j'ai pas le temps, parce que j'ai accepté bêtement de faire Modeste Pompon à la suite d'une dispute avec Dupuis. Et donc j'ai la série de Spirou et Fantasio. Et à l'époque, la série Spirou et Fantasio ne pouvait pas avoir d'intervalle entre chaque série. Il fallait que ça suive tout le temps. Hein, donc je n'ai pas le temps. J'ai une planche et demie de Spirou, une planche de Modeste Pompon. La chronique auto qu'il avait accepté parce que Dupuis était un fanatique d'automobile, il m'a dit non, je vous donne la chronique auto et Gaston. Et moi qui venais d'Heroic Album où je dessinais des séries très très tilleux, avec des mecs baraqués à la Heidi Constantine et des histoires comme ça, je suis tombé là-dedans comme un cheveu dans la soupe. Et bon, il m'a dit dans un mois j'ai un atelier, j'ai loué un atelier. On va commencer, Gaston. Et puis je suis arrivé, il m'a donné des scénarios vaguement découpés sur des papiers de machine, comme ça, il faisait un petit scénario, des petits personnages, des petites marionnettes. Et puis, bon, il venait tout le temps, oui, c'est très bien, mais... Et puis il gommait tout, et il me disait, il est pas assez mou. J'ai mis à 3 mois, 4 mois à dessiner Gaston convenablement, assez mou. Et puis finalement, c'est parti comme ça, et voilà.
Et il a essayé de se plier à notre style, Spirou. Et ça n'a jamais tout à fait bien marché. Mmh. À tel point que Gaston était un personnage que je lui destinais, et il m'a un jour avoué, « Mais Gaston, finalement, je ne le sens pas, il est trop souple pour moi. Il est fait pour dessiner des personnages plus durs, plus secs. » Alors j'ai repris Gaston moi-même, j'ai bien fait d'ailleurs.
Moi j'ai dessiné 400, j'en ai fait 400. C'était toujours lui qui faisait les gags, il n'y avait rien à faire. Ça, j'ai essayé d'en faire quelques-uns, mais c'était jamais... Il y avait l'idée, il reprenait l'idée, mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Moi j'ai continué à faire les dessins, et lui faisait toujours les gags. Il a jamais... Je crois qu'il y a eu 2 gags que j'ai fait, par hasard, qu'il a accepté. Mais d'habitude, non, c'était toujours lui qui faisait les gags.
je n'ai jamais dit l'âge de mon personnage, je ne le sais pas, moi, l'âge de mon personnage. Mon personnage peut encore jouer comme un enfant, mais il peut conduire une voiture, c'est un peu comme Spirou, c'était ambigu ça aussi.
Oui, mais l'âge pour faire ton service, c'est entre 18 et 30 ans.
Mais je peux imaginer que Gaston est plus jeune que ça, pour moi il a moins de 18 ans, Gaston.
Ah bon?
Ah oui, oui. Mais je ne sais pas son âge, mais il a moins de 18 ans.
Comment peut-il faire tout ce qu'il fait en ayant moins de 18 ans?
Ah, ça, j'en sais rien. C'est un précoce.
Non, mais
c'est un gaffeur précoce.
Pour toi, sérieusement, il a moins de 18 ans?
Oui, ben, je suis tenté de dire qu'il a moins de 18 ans. Pour moi, 18 ans, c'est déjà un jour, on est sérieux, etc. Il est plus gamin que ça. Et, je ne sais pas. Je ne sais pas l'âge de Gaston. Hein, je ne peux pas le dire. Je ne l'ai jamais dit. Ne dis pas que je t'ai parlé de moins de 18 ans.
Non, je sais pas, mais pour moi, c'était entre 18 et 20 qu'on peut le situer.
Je m'en fous totalement de l'âge de Gaston.
Et physiquement, et par son âge mental.
Oui, son âge mental. Oui.
Parce qu'on n'a pas arrêté de faire des conneries à 18 ans, c'est pas vrai.
Si on me juge par le mien, je dois avoir maintenant 22 ans.
Oui. T'es révolutionnaire permanent.
Non, je ne crois pas ça. Non, non. Il est trop candide pour ça, tout de même. Il est candide parce que quand il fait une invention, il y croit vraiment. Et si ça tourne mal, eh bien, il dit, mais enfin, le type qui n'a pas prévu ça, il est de bonne foi.
Hein. Je suis sûr qu'il doit y avoir des gags qui sont plus ou moins en rapport avec l'armée ou des choses comme ça, les armements. On va en trouver. Là aussi, ses positions sont très nettes.
Je ne sais pas s'il a été un... Bon, il y a eu une histoire où c'était un gag de Robin, d'ailleurs. Où la musique de son gaffophone... La musique de son gaffophone a fait éclater le cockpit d'un avion en réaction. Les lunettes, même les lunettes du pilote et tous les instruments de bord. Et il se plaint, évidemment. Et alors, il y a un autre truc avec un... Ah oui! Il veut ramener sa cheminée avec une sorte de matière explosive pour dégager bien à fond la cheminée. Et... Il fait ça au moment où passe, sans le vouloir, au moment où passe un avion militaire. Et cet avion militaire arrive tout cabossé à la base, c'est tout juste s'il n'est pas abattu. Et il croit qu'il a été attaqué par des fusées sol-air. Mais c'est pas voulu, hein, il n'a pas essayé, il a voulu simplement ramener une cheminée. Alors il a évidemment, Greenpeace m'avait demandé de pouvoir se servir d'une planche que j'avais faite, que j'ai faite pour Greenpeace d'ailleurs. J'ai fait pour Greenpeace cette histoire où avec son gaffophone, il chasse les baleines devant un baleinier. Et je me suis amusé comme un fou à dessiner ce bateau, j'ai trouvé d'excellents documents, et j'ai dessiné au millipoil un vieux baleinier. Je me suis vraiment amusé beaucoup. Mais ici, le bateau était particulièrement soigné. J'avais d'excellents documents.
Oui, les gueules des personnages aussi.
C'est publié un peu sombre.
Oui.
Pas de plus.
Et c'est un personnage que tu as quand même utilisé quelquefois pour des campagnes genre défense de ceci.
Oui, et pour Amnesty, par exemple.
Lutte
oui,
contre cela.
Oui, Delporte avait fait un excellent, enfin, Delporte, sur mes indications, parce qu'une partie du scénario est de moi, mais Delporte avait mis ça en musique très bien, c'est la planche pour Amnesty International. Elle n'est pas tout à fait réussie, mais enfin, elle n'est pas mauvaise.
L'éditeur ne t'a jamais demandé de faire une histoire longue avec Gaston.
L'éditeur, n'auront pas un éditeur qui descend dans des détails comme ça. L'éditeur s'occupe de temps à autre, je suppose, d'un détail dans une série, comme l'histoire Natacha, pour dire elle est à poil, ça ne va pas, etc. Voilà une chose qui peut arriver parce que, sans doute, trois lettres sont arrivées disant qu'on exagère, que ceci, que cela. Alors l'éditeur condescend à s'occuper de... Mais c'est pas un éditeur qui a des plans d'édition, il compte pour ça sur les gens qu'il engage, sur le rédacteur en chef, maintenant, il s'occupera de temps à autre de venir juger un truc, de venir voir une chose, c'est inattendu alors, et Charles Dupuis a toujours voulu jouer un rôle dans lui-même dans Spirou, mais il n'avait pas beaucoup de temps, mais enfin... Mais quant à faire des suggestions sur l'avenir d'un personnage, non, je ne crois pas, non. Non, le côté créatif, on peut critiquer et critiquer, mais le côté créatif, non, je ne crois pas.
Mais à un moment, c'est une question qu'on t'a beaucoup posée dans les interviews et les fanzines, parce que ça devait peut-être être dans l'air, quand même, cette histoire de long épisode de Gaston. Pas spécialement à l'armée. J'ai souvent lu ça à l'époque, dans les
journaux. Oui, c'est peut-être parce que les gens voient la bande dessinée comme c'est l'influence de bandes comme Tintin, des choses comme ça. Et c'est un peu une chose que je pense aussi, d'ailleurs, je crois que la vraie belle bande dessinée, c'est la bande dessinée longue à suivre et qui vous tient en haleine pendant pas mal de temps. Mais c'était peut-être des gens qui n'admettaient pas tout à fait qu'un personnage soit dans des planches à gac en une page, et pour eux, c'était sans doute, ils supposaient que c'était provisoire, je suppose que c'est ça.
C'est la bande dessinée noble, c'est la bande dessinée d'aventure.
La vraie bande dessinée, c'est la bande dessinée d'aventure, la longue, longue, belle bande dessinée. Oui. Ils n'ont pas tout à fait tort, d'ailleurs. Moi, je regrette la belle bande dessinée d'aventure. Quand je vois Panade à Champignac, je ne dis pas que c'est une belle aventure, mais c'est une espèce de bizarre aventure, mais c'est agréable de lire un album comme ça pour moi.
Comme l'évoque Franquin, une histoire longue de Gaston est difficilement envisageable et risque de l'éloigner complètement de sa fonction première de héros sans emploi qui vient gaffer chaque semaine dans le journal. Les premiers albums rassemblant les gaffes de Gaston marquent cette difficulté de bien faire sentir qu'il s'agit de dégâts hebdomadaires. Numa Sadoul et Franquin se penchent sur la question.
Finalement, ce premier album de Gaston n'est qu'un petit brochet d'un strip. Ensuite, il y a eu les demi-albums format à l'italienne.
Oui.
Dont un numéro s'est égaré, je crois, il y en a un qui n'existe pas, non ?
Non, c'est pas ça, non.
Il y a eu
cinq petits albums.
Oui.
Et j'aimais bien ce format, et ça, tout le monde était contre ce format. Et Peyot, qui avait de l'expérience, qui est plus malin que moi pour les questions commerciales, il m'avait dit, tant que tu feras des demi-albums comme ça, tu n'en vendras pas. Et moi, j'aurais bien voulu imposer ce format parce que je le trouvais intéressant, original, et que je trouvais que, bon, on pouvait glisser ça sur ses genoux à l'école pour lire pendant les cours. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aimais bien ce format-là. Et puis alors, il y a un libraire qui m'a dit « Ah, ces albums-là, on nous en vole plus que nous en vendons. » Parce que c'était difficile à exposer. Tous les autres albums ayant des formats plus ou moins similaires, ceci était difficile à exposer. On ne savait où les mettre, on les exposait mal. Et quand on les exposait, c'était facile à voler. C'était vite pris et mis dans une poche.
Exact.
Alors, je me suis décidé, après les cinq petits, j'ai fait un numéro 6 qui était un grand.
Mmh.
Et puis, on m'a dit, c'est dommage, toutes ces planches qui n'ont pas connu un très grand public, comme les grands ont marché immédiatement beaucoup plus fort, toutes ces planches, on devrait les rééditer en grand. J'ai dit, c'est une bonne idée, on va les rééditer en grand. Mais avec les cinq, on n'a pu faire que quatre. Avec les cinq petits, en raclant même les planches qui n'avaient pas paru, qui avaient été écartées, on pouvait en faire quatre grands.
Oui.
C'est pour ça que ça va 1, 2, 3, 4, 6. Et que l'album 5 n'existera jamais.
Il n'y a pas de R5
ni de...
Et le petit brochet a été repris dans cela aussi ?
Il se trouve dans les R maintenant, évidemment.
Oui. Oui, mais alors, dans les R, c'est pas dans l'ordre rationnel non plus.
Je ne sais pas. Ça, je dois dire que je ne m'en suis jamais vu occuper.
Le premier petit se retrouve dans le numéro 3
des R. J'ai toujours cru qu'il faisait ce que j'aurais fait là, à leur place, mettre ça dans l'ordre normal où ça a apparu. Moi, ça me semble évident. Et ça me semble tellement évident que je n'ai jamais remarqué que ce n'est pas le cas.
Rassurons les petits lecteurs d'aujourd'hui, depuis 2017, la collection complète de Gaston Lagaffe est disponible dans toutes les bonnes librairies.
C'est mal foutu, mais ça donne bien.
Fameux boulot qui en vaut la peine, il a fallu ranger scrupuleusement, enfin dans l'ordre chronologique, les frasques de notre gaffeur préféré.
Enfin.
Non seulement les planches, mais aussi les multiples apparitions dans les coins cachés du journal.
Oui.
Notamment les fameux en direct de la rédaction.
Est-ce qu'on peut s'amuser avec des conneries ?
Voilà, ceci termine pour aujourd'hui notre chapitre sur Gaston, mais on y reviendra sûrement. Finissons en beauté avec la recette de la morue aux fraises de Gaston, écrite et interprétée par Yvan Delporte.
Oui, caviar et langoustine au paprika. Oui, le pain prend chevreuil en chaud et froid. Mais tout compte fait, y'a qu'une seule chose qui me plaît, c'est la morue aux fraises.
La morue aux fraises.
Oui, les fonds d'artichaut sur canapé. Oui, le caviar et puis le saumon fumé. Mais on peut remplacer toutes ces fadaises par la morue aux fraises.
La morue aux fraises, la morue aux fraises.
C'est mieux qu'un œuf dur mayonnaise.
La morue aux fraises.
Plus fin que la perdrix basket.
La morue aux fraises.
Le turbo sauce hollandaise, c'est ça la vraie gastronomie. Oui. Le homard de Monsieur Thermidor. Oui. Et les canapés de civet de porc. Mais j'en boufferai jusqu'à m'en rendre obèse. De la morue aux fraises. C'est pas les huîtres portugaises. C'est mieux que la cuisine antillaise. Plus fort qu'un steak cuit sur la braise. Plus beau que les chutes, plus en baisse. C'est plus solide que du Louis XVI. C'est plus intime que le Père Lachaise. C'est plus français que la Marseillaise. Plus marseillais que la Pimpolaise. C'est pas comme une douche écossaise. Elle est mieux que la polonaise. C'est pas assis entre deux chaises. Comme à l'Académie française. Comme la matrone vous fait de l'effet. Elle a les yeux de la Sainte-Thérèse. Celle-là je la trouve pas mauvaise.